Aujourd'hui, j'intitulerai mon message « La grande interrogation ». Quand le Saint-Esprit nous conduit dans les sentiers de la grâce, qu'il nous enseigne, que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde, à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix chaque jour à la suite de Christ, à devenir le serviteur de tous, le moindre, le plus petit, à choisir la dernière place, à bénir quand on nous persécute, à se taire quand on nous insulte, à vivre dans la disette quand tout autour de nous, ils sont dans l'abondance. Pourquoi Dieu nous conduit sur ce chemin qui peut nous sembler quelquefois si étroit, si contraignant pour le moi, où l'on semble constamment nous mettre à mort? La même question. Pourquoi Dieu nous conduit-il sur ce chemin a depuis toujours hanté le cœur des vrais croyants, car c'est le chemin que le Saint-Esprit, sur lequel le Saint-Esprit conduit les vrais croyants. Psaume 44, versets 10 à 17. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlève nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi, et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier. La grande interrogation des croyants sincères, vrais, qui suivent le sentier de la grâce, desquels on accuse souvent d'avoir oublié Dieu, on pense, oh, s'ils sont atteints ainsi, s'ils sont châtiés, s'ils sont punis, c'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu, on les méprise. Vous savez, on a dit exactement la même chose sur Jésus lui-même. Nous sommes appelés à suivre le sentier que Jésus lui-même a suivi. Ce n'est pas un sentier différent. Le Maître a passé par là, par ce sentier de la grâce. Isaïe 53, versets 3 et 4. Ça nous parle de Jésus, homme de douleur, méprisé et abandonné des hommes, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Si cet homme n'aurait pas commis de péché, Dieu n'aurait pas permis cette croix. Voilà ce que les gens disent, la manière que l'on voit Jésus, ce que les gens du monde disent et ce que souvent même l'Église dit quand ils voient un de siens suivre le sentier de la grâce. Tout cela t'arrive, ça doit être parce que tu as oublié Dieu, tu as désobéi à Dieu. Dieu te châtie, Dieu te punit. C'est pour ça qu'il arrive la disette dans ta vie, qu'il arrive des épreuves. Or, ce n'est pas du tout le cas pour les vrais croyants qui suivent le sentier de la grâce, le sentier du renoncement, qui marchent dans la mort à soi à tous les jours, qui ont à supporter des souffrances comme le Maître, à partager les mêmes souffrances que le Maître a vécues, la communion de ses souffrances. Pourquoi Dieu se plaît-il à nous laisser passer sur ce sentier? Si Dieu nous aime, pourquoi nous traite-t-il ainsi? Psaume 45, au verset 20 jusqu'au verset 27. Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort, si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi! Ne nous repousse pas à jamais! Pourquoi caches-tu ta face? Je suis rendu à lire au verset 25. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Celui qui a écrit le psaume répète ce mot 4 fois. Pourquoi? La grande interrogation. Pourquoi faut-il passer sur ce chemin-là? Quand notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre, la mort. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Nous voyons que ce chemin, ce sentier, est un passage obligatoire. Ce n'est pas un but en soi. L'épreuve n'est pas un but en soi, mais c'est un passage obligé vers un but. Il y a un but à cette épreuve-là. À toute épreuve qui arrive dans notre vie, il y a un but. Ce n'est pas l'épreuve en soi. L'épreuve est là pour nous amener vers le but. L'objectif que Dieu prévoit pour nous. L'objectif que Dieu a d'avance préparé pour nous. Qu'est-ce que Dieu répond? C'est le Saint-Esprit qui inspire cette prière aux fils de Coré qui ont écrit le psaume 44. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette prière, ce cri du cœur aux psalmistes. Pourquoi? Mais c'est le Saint-Esprit, celui qui a écrit la Bible, qui a inspiré la Bible, répond lui-même à cette même question. Pourquoi Dieu permet-il une telle chose dans notre vie? S'il nous aime, pourquoi permet-il la souffrance? La Bible répond elle-même aux questions qu'elle nous pose. Le psaume suivant, le psaume 45, va nous répondre à cette question-là. Pourquoi? On a la réponse juste quelques versets plus loin. Le Saint-Esprit a de la suite dans les idées. Il sait où il nous emmène. Et s'il soulève en nous une question au travers d'un cri, d'une prière qui vient du fond du cœur, il veut lui-même y répondre. Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Psaume 45, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Mon œuvre est pour le roi. Tout ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans ma vie, ce sentier de la grâce, ce chemin du renoncement, cette œuvre-là, parce qu'il est en train de faire une œuvre de transformation en nous, cette œuvre-là est pour le roi. C'est une œuvre de perfectionnement que le Saint-Esprit fait en nous pour le roi. Parce que tout le psaume 45 nous parle du roi. Verset 3, « Tu es le plus beau des fils de l'homme. » Ça nous parle de Jésus-Christ, le roi, le Messie. « La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par des exploits merveilleux. Tes flèches sont aiguës, tes peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. C'est le roi, c'est Christ, notre roi, notre Messie, l'époux divin, le chef de l'Église, le mari de l'Église qui est son épouse. Tout cela est fait pour le roi. Et le verset 12 nous donne la clé de ce que le roi cherche au travers de ses épreuves, ce que le roi cherche à faire. C'est dit au verset 12 du psaume 45, « Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Le roi porte ses désirs, tout son focus, toute son attention sur ta beauté, pour façonner en toi une beauté spirituelle, une perfection spirituelle, de porter son image, de porter sa ressemblance. Le roi, tous ses désirs, tout ce qu'il cherche à faire, ce que le roi cherche à faire, le but qu'il cherche au travers de ces souffrances-là, c'est de parfaire notre beauté pour qu'on puisse lui être présenté, pour qu'on puisse venir dans sa présence et être revêtu de lui, pour qu'il puisse venir prendre possession de nous qui sommes son héritage, qui sommes sa bien-aimée. Ce que le roi désire le plus au monde, son focus, son désir, c'est notre beauté spirituelle. Cela lui importe peu, les choses qui sont autour. Pour l'instant, toutes les choses qui sont autour, la souffrance qui est autour, concourent à faire de nous cette beauté spirituelle. L'épreuve, le feu de l'épreuve, nous rend beau, nous purifie, fait de nous des pierres précieuses. L'apôtre Pierre nous disait la même chose en 1 Pierre, chapitre 1, les versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Un passage obligé. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La gloire, l'honneur et la louange lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La beauté céleste de Christ doit venir sur nous, au travers de l'épreuve, au travers du feu de l'épreuve, au travers du renoncement à soi. Le Saint-Esprit est en train de façonner une beauté qu'il veut présenter à Christ. Les pierres les plus belles et les plus précieuses qui existent ici-bas sont façonnées dans des températures et des pressions extrêmes. Le précieux diamant, une des pierres les plus précieuses sur terre, le diamant qui est éclatant, transparent, d'une beauté superbe, le diamant n'est qu'un vulgaire morceau de charbon qu'on a placé dans le creux de la terre à des profondeurs, des températures énormes. Et lorsqu'on met ce charbon-là dans des températures, des pressions énormes, ce charbon se transforme à l'intérieur et devient du diamant. Aujourd'hui, même l'homme réussit de façon artificielle à produire des diamants avec du charbon. Job, au travers de son épreuve, avait discerné ce fait-là, qu'il y a une place pour nous croyants où Dieu désire nous rendre beaux, encore plus beaux, nous épurer, faire de nous des pierres précieuses. Job 28, versets 1 à 7. Il y a pour l'argent une mine d'où l'on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités, ses pieds ne lui sont plus en aide, il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où le sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Un lieu caché dans le fond de la terre, où l'on extrait l'or, le saphir, le diamant, le topaz, le rubis, toutes les pierres précieuses sont formées dans le creux de la terre, dans des cheminées de volcans. Et là, c'est là qu'on découvre ces pierres précieuses-là. Les géologues savent où trouver ces pierres. Ils vont chercher dans des anciens volcans, Il y a des places où il y a des cheminées et il y a eu de la pierre en ébullition qui est sortie. Et de là, dans des filons, ils vont trouver de l'or. Ils vont trouver du diamant, du saphir, toutes sortes de pierres précieuses. Mais c'est la même chose avec nous, croyants. Dieu a un lieu secret, caché des hommes, caché des regards des hommes, où il forme ses pierres précieuses, sa beauté, qu'il forme une épouse pure, sans tache, d'une beauté irrépréhensible. C'est dans ce lieu-là qu'il forme notre beauté, qu'il nous apprend par la puissance du Saint-Esprit, par pure grâce, qu'il nous transforme à son image. Dans les épreuves, au travers de ce sentier du renoncement, loin des regards des hommes. C'est pas pour rien que psaume 45, juste avant de dire que le roi porte ses désirs sur ta beauté, psaume 45 au verset 12, le roi porte ses désirs sur ta beauté puisqu'il est ton Seigneur en lui, tes hommages. Juste au verset 11, le Seigneur adresse une exhortation à nous, à sa fille, à son église. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie tous ceux qui t'entourent. Tous ceux qui autour de toi ont plus que toi, vivent dans l'abondance. Ils ne suivent pas ce sentier-là, ils ne le connaissent pas. Que ce soit parmi les gens du monde ou que ce soit même parmi son église, qui aujourd'hui, pour la plupart, vit dans l'égarement, ne marche pas sur ce sentier du renoncement. Oublie les gens autour de toi. Regarde à ton roi. Mets ton focus sur ce que le roi focus maintenant. Le roi met toute son attention sur ta beauté. Il est en train de te mettre dans un lieu à part, à l'écart des autres, même à l'écart de son église, pour former en toi cette beauté. C'est toute son attention, tout son désir est là. C'est le désir de son cœur. C'est son plus grand désir d'avoir une épouse qui lui ressemble. Parce qu'il ne peut pas revêtir son épouse si elle n'a pas d'abord revêtu sa beauté. C'est pour ça qu'il dit, oublie ton peuple, la maison de ton père. Oublie les gens qui t'entourent. Oublie l'Église. Oublie la façon que l'Église marche aujourd'hui. Marche dans les sentiers du Saint-Esprit, les sentiers de la grâce. Suis ton maître. Suis ton époux. Porte toute ton attention sur lui. Il est digne. Il a payé le prix pour toi. Lui, il a suivi ce sentier. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Toute sa vie, il était méprisé. Lorsqu'il a fait des miracles, les gens couraient autour de lui. Mais il savait que la croix viendrait bientôt, où il le mépriserait encore. Mais c'était le chemin que le Père avait tracé pour lui. Et c'est le même chemin que le Père a tracé pour nous, ses enfants. Le roi désire faire de nous une beauté intérieure, pas la beauté extérieure, comme l'apôtre Pierre nous dit, en 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Ce n'est pas une beauté extérieure, une beauté physique, c'est une beauté intérieure. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Pureté incorruptible. Seul le feu de l'épreuve peut emmener en nous cette pureté incorruptible. C'est une œuvre de l'Esprit-Saint. C'est un travail de l'Esprit-Saint pour ceux qui suivent humblement ce sentier de la grâce. Humblement, parce que c'est une grâce. C'est pas quelque chose qu'on fait à force d'effort. On ne peut pas y parvenir à force d'effort. C'est impossible. C'est une œuvre de l'Esprit. C'est une grâce, c'est un don. Il faut simplement suivre l'Esprit, se soumettre à lui et accepter de suivre ce sentier qu'il trace devant nous. Pour notre beauté, pour notre perfectionnement. C'est ainsi que les femmes pieuses autrefois qui espéraient en Dieu se rendaient belles. Elles étaient soumises à leur mari. Se rendaient belles. La beauté intérieure qui fait que le mari, que Christ trouve son plaisir dans son épouse, qui lui est soumise, qui suit ce sentier-là. le chemin étroit, pas le chemin large que l'Église suit présentement, le chemin étroit, resserré, contraignant. Le croyant souvent se pose cette interrogation lors de ces moments de souffrance. On se pose cette question-là. Pourquoi Dieu permet-il cela? C'est parce que Dieu est en train de parfaire cette beauté-là. Pourquoi qu'il permet cette beauté-là? Dieu a un but. Psaume 45. Il fait en nous cette beauté, il crée en nous cette beauté pour nous présenter au roi. Psaume 45, les versets 14 et 15. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi, dans la présence de Christ, dans la présence du oint, du Messie. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, peut venir revêtir son épouse ainsi. Comme il a revêtu Christ quand il est sorti du désert tenté par le diable, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il était revêtu de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il s'était soumis à ce sentier de la grâce, ce sentier du renoncement. Alors le Père a pu envoyer son Esprit, l'Esprit du Seigneur, le revêtir. Et c'est la même chose qu'il veut faire avec nous, il peut nous revêtir de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Christ, revêtu de Christ, manifester sa gloire. Et le psaume suivant parle justement de cette gloire qui manifeste la présence de Christ. Verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 5, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès le matin. Il est un fleuve. » La présence de Christ, du loin, l'Esprit du Seigneur est un fleuve qui répand, qui se répand. Dieu lui-même veut se manifester sur nous comme un fleuve. Le Saint des Saints veut descendre sur nous. Et Dieu veut répondre comme il répondait à Christ. Quand Christ demandait quelque chose, son Père lui répondait. Jésus a dit, « Mon Père me répond toujours, m'exauce toujours, parce que moi je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et c'est le même esprit qui doit venir nous revêtir en tant qu'épouse. C'est la même beauté que Christ veut former en nous pour envoyer son esprit, pour qu'il puisse venir lui-même habiter, demeurer sur nous, et que l'esprit puisse se répandre autour de nous comme un fleuve. Psaume 72, versets 6 et 7. Le psaume 72 nous parle encore du roi, du Messie. Au verset 6, ça dit, « Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. » L'Esprit Saint qui revêtait Christ, le oint, le Messie, « Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. » Sa présence est comme une pluie. L'Esprit du Seigneur, quand il vient en plénitude, revêtir son épouse est comme une pluie. Il veut venir comme un fleuve, se répandre sur nous. Ésaïe 33, verset 17. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. La beauté que Christ, que le Saint-Esprit est en train de nous revêtir, c'est pour nous présenter au roi, dans la présence du roi. Une communion tout à fait intime avec le roi. Un revêtement. Le roi qui revient se marier à son épouse. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Et ça nous dit au verset 21 du même chapitre, c'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. C'est quand il peut trouver cette beauté et venir nous revêtir de son esprit. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau, aucun vaisseau ennemi. L'ennemi ne peut pas rester lorsque la présence du Saint-Esprit, l'onction du Seigneur est sur ce lieu. L'ennemi est obligé de fuir. Le fleuve de Dieu fait fuir l'ennemi. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Ce n'est pas un homme qui va être notre juge. Comme du temps des juges, Gédéon, Samson. C'est pas un homme qui va être notre législateur. Comme du temps de Moïse qui donnait la loi. Législateur, ça veut dire celui qui donne la loi. Ce n'est pas Moïse qui a donné la loi, c'est Dieu. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas David. Dieu lui-même, l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées. Jésus-Christ, lui-même, il est ce roi de gloire. Il veut entrer dans sa maison. Élevez-vous, portail éternel. Laissez entrer le roi de gloire. Christ veut entrer. Il veut venir revêtir de sa gloire son épouse. Il veut marcher avec nous et par son esprit, il veut tenir lieu de fleuve. Psaume 24, versets 6 à 10. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portail éternel. Laissez entrer le roi de gloire. Pour laisser entrer le roi de gloire, il faut que le Saint-Esprit élève nos standards, élève nos linteaux, élève notre perfection, notre beauté, qui nous rende à l'image de Christ, pour que le roi puisse venir, entrer dans sa maison et demeurer, habiter sur cette maison, avec sa puissance revêtir cette maison, faire que cette maison, ce vase de terre, soit revêtu de la gloire de Dieu et que la puissance du Saint-Esprit puisse agir dans nos vies comme elle a agi du temps de Jésus, comme elle a agi avec Jésus. C'est là le plan de Dieu. C'est là le plan que le Saint-Esprit pourvoit, prévoit pour chacun de nous. Mais il nous faut suivre et passer par ce sentier de la grâce, accepter de se soumettre à notre époux, à l'Esprit du Seigneur, à l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Parce qu'il y a un but. Il y a un but glorieux. Par faire cette beauté pour nous présenter à l'époux et que l'époux vienne habiter, demeurer. Que la gloire du Seigneur puisse demeurer sur nous et que l'ennemi n'ait que plus qu'à fuir. Parce que la présence glorieuse du Seigneur va se manifester par des signes, des prodiges et des miracles. L'apôtre Paul disait, il n'y a aucune chose que je n'oserais mentionner que Christ n'ait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la puissance des signes, par la puissance des prodiges, par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait cela, Romains chapitre 16. Pourquoi disait-il cela? Parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Romains chapitre 15, verset 18. Je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Dieu a le même plan. Il n'a pas changé de plan. Dieu n'a pas changé. Il a le même plan qu'il avait du temps de Jésus, qu'il avait du temps des apôtres, de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. De répandre la puissance, de répandre l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Pas par la puissance des moyens humains, pas par la sagesse humaine, par la puissance du Saint-Esprit. Et il désire nous revêtir de cette puissance du Saint-Esprit, de l'onction du Seigneur sur nous, venir lui-même parce qu'il nous a façonnés à son image, dans l'humilité, avec un cœur doux et humble, un cœur patient dans l'épreuve, qui supporte l'épreuve, un cœur qui se contente de peu, qui a appris à se contenter dans la disette, dans l'abondance, dans la faim, dans la satiété, il sait se contenter. Le Saint-Esprit est en train de former en nous ce cœur qui plaît au Seigneur, ce fruit glorieux de l'Esprit qui permet à l'Esprit du Seigneur de venir sur nous et de demeurer. Job avait compris cela lui aussi au travers de son épreuve. Job, verset 42, verset 5, il s'exclame: « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant mon œil t'a vu. Tes yeux verront le roi. La présence glorieuse de Christ va venir. » Job a passé l'épreuve, il a été épuré, il a été purifié à travers du feu de l'épreuve, et il dit: « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. » Et là, Dieu a pu le bénir au double, lui donner au double de tout ce qu'il avait perdu, de tout ce qu'il avait avant. La bénédiction de Dieu a été au double. Et c'est la même chose que Dieu veut faire au travers de nous. Le but de l'épreuve, de la souffrance, n'est pas notre destruction. Dieu ne désire pas nous détruire. Même si ça semble, au travers qu'on nous sommes dans l'épreuve, si ça semble que tout autour de nous est mort, ça semble la destruction tout autour de nous est semée tout autour de nous. On dirait qu'on va y passer, qu'on va y rester notre peau. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Il faut garder nos yeux sur le focus. C'est là que ça prend de la foi pour se réjouir des diverses épreuves. Comme nous exhorte l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Paul, réjouissez-vous des diverses épreuves qui sont devant vous. Parce que c'est là un sujet de gloire. C'est là ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Parce qu'il désire nous revêtir de la gloire du Seigneur. Il désire venir lui-même habiter son temple, demeurer, comme un fleuve qui va répandre la vie autour, qui va répandre la bénédiction et qui va détruire les œuvres du diable, qui va amener le salut, la puissance de l'Évangile, être prêché avec puissance autour de nous, pour que des gens puissent encore venir à Jésus et être sauvés. C'est le but de Dieu qu'il poursuit avec nous. Et il nous dit: oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie tout ce qui t'entoure. Oublie le fait que tu n'as peu de choses. Oublie le fait que autour de toi il n'y a pas la gloire des hommes. Que tu n'es pas reconnu par personne. Tu n'es pas reconnu par l'Église. Tu n'es pas reconnu par les pasteurs. Tu n'es pas reconnu par les gens du monde. Oublie cela, mais suis le sentier de la grâce. Regarde à Jésus seulement. Parce que si tu regardes aux hommes, si tu regardes à l'Église, tu vas être confus, tu vas devenir troublé. Parce que les hommes m'ont indiqué un autre chemin. L'Esprit de Dieu, lui, a son sentier. Il sait ce qu'il fait. Alors, relevons la tête. Tournons nos regards vers Christ et saisissons-nous du même focus que lui a. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Il est en train de faire de toi une beauté. Réjouissons-nous de la présence du Saint-Esprit en nous, qui est en train de travailler, qui nous console au travers de toutes nos souffrances, et qui va nous tirer de cette épreuve, qui va nous faire sortir, car Dieu désire nous délivrer de cette épreuve, manifester sa gloire. Il ne veut pas qu'on y meure, ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que la vie se manifeste. Oui, il y a la communion de ses souffrances, mais le but de Dieu, c'est que la puissance de la résurrection de Christ se manifeste dans notre vie, maintenant, présentement. Autant que la souffrance, autant la puissance de la résurrection de Christ va se manifester. Et c'est là le but que Dieu poursuit. C'est là la réponse à cette grande interrogation qui a toujours, depuis toujours, hanté le cœur des croyants. Pourquoi la souffrance? Pourquoi faut-il renoncer à nous-mêmes? Si on renonce à nous-mêmes, c'est parce qu'il y a quelqu'un de bien plus merveilleux que nous, qui est Christ lui-même, qui désire s'allier à nous, qui désire se marier à nous, qui désire venir nous revêtir de lui-même. L'époux qui nous aime jusqu'à donner sa vie pour nous, qui nous aime d'un amour si intense, si vrai, si pur. L'époux qui est rempli de bonté, mais qui sait aussi être exigeant. parce qu'il est parfait, parce qu'il est saint. Alors il nous amène à cette même perfection, à cette même beauté que lui-même possède. Parce qu'il veut nous avoir avec lui. Il veut qu'on passe l'éternité avec lui. Mais c'est ici-bas qu'il veut manifester sa gloire. C'est maintenant. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous de ce temps parce que la gloire de Dieu va se manifester, parce que la pluie va venir aussi arroser la terre. Si nous sentons fauchés, si nous sentons notre terrain asséché comme un désert, la pluie de sa présence veut venir arroser la terre. Cherchons sa présence, comme ça nous est dit dans Osée, car sa présence va venir comme une ondée, comme une pluie. Osée chapitre 6, verset 1. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre, la venue de l'Éternel des armées, de son esprit sur nous, comme une pluie qui arrose la terre. » Il dit bien, il a frappé, mais il pendra nos plaies. Christ a passé par ce chemin du renoncement. Il savait c'était quoi. Mais la puissance de la résurrection de Christ est venue le troisième jour et l'a relevé. Et nous aussi, nous avons à passer. Il nous rendra la vie dans deux jours. Nous avons à passer à suivre la grâce et les sentiers de la grâce. Nous avons à connaître toute la grâce que Christ a accomplie pour nous, le pardon qu'il y a pour nous à la croix, sa justification, sa sanctification, sa sagesse qu'il a pourvue à la croix, et à suivre ensuite ce sentier de la grâce, à porter notre croix, nous aussi, à la suite de Christ. Il y a ces deux jours-là. Ce premier jour qui est la révélation de la grâce et ce deuxième jour qui est la révélation des sentiers de la grâce. Premier jour, Christ nous montre l'œuvre qu'il a fait à la croix, tout ce qu'il a fait. Le deuxième jour, il nous montre tout ce que nous avons à suivre, nous aussi, à porter cette croix à sa suite. Et lorsque nous avons passé ces deux jours-là, la puissance de la résurrection de Christ peut venir sur nous le troisième jour et nous relever, manifester ce fleuve de vie, cette pluie du printemps, pour arroser la terre, arroser notre pays, arroser son Église qui s'égare maintenant. Dieu nous appelle à être comme les fils de Tsadok qui se tiennent devant lui. Les fils de Tsadok dans Ézéchiel, lorsque tout le peuple s'égarait, Dieu avait des serviteurs. Ils étaient peu nombreux, mais ils se tenaient devant Dieu, malgré le fait que tout le reste du peuple s'égarait. Et Dieu nous appelle la même chose. Suis ce sentier, suis mon esprit, tiens-toi dans ma présence. Continue, mets le focus sur ce que Christ met le focus présentement, par faire ta beauté. C'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu attend de nous. Ézéchiel 44, le verset 15, ça nous parle des fils de Tsadok. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Ils se entreront dans mon sanctuaire et s'approcheront de ma table pour me servir et seront à mon service. Tandis que les autres sacrificateurs, les autres Lévites, qui ont suivi le peuple lorsque le peuple s'égarait, qui ont donné l'enseignement des docteurs selon les désirs du cœur du peuple, qui ont suivi, qui ont donné ce que le peuple désirait comme enseignement, Ézéchiel 44, verset 10, les Lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, la cupidité, la convoitise, l'orgueil, porteront la peine de leurs iniquités. Ils seront dans mon sanctuaire comme des serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison. Ils feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices. Ils se tiendront devant lui. Pas devant Dieu, devant lui. pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Dieu veut venir comme un sanctuaire nous habiter. Mais il nous faut suivre ce sentier, le sentier de la grâce. C'est pourquoi, c'est là le pourquoi de ce sentier de renoncement, de souffrance, d'épreuve. C'est là le pourquoi. Ne mettons pas nos regards sur l'épreuve elle-même. Mettons nos regards sur le but que Christ poursuit au travers de ça. Ne nous comparons pas aux autres. Ne nous comparons pas au peuple, à l'Église, aux gens du dehors. Ne regardons pas les autres pasteurs qui, eux, réussissent apparemment, qui ont la gloire des hommes devant eux. Regardons à Christ. Christ veut nous revêtir de sa gloire, qui est très différente de celle des hommes. C'est sa gloire, c'est son fleur de vie. C'est sa puissance de vie. La même vie que Christ a vécue, la même vie que les apôtres ont vécue. Et c'est ce qui est devant nous. L'Éternel des armées, comme un fleuve, peut venir habiter. Laissons le Saint-Esprit élever ses linteaux en nous, élever sa perfection en nous, élever sa beauté en nous. Seul le Saint-Esprit, par pure grâce, peut faire ces choses si nous suivons humblement son sentier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous.